Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal, François-Xavier de Calonne. Des heurts entre police et manifestants près du Parlement tunisien. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies pour protester contre la concentration des pouvoirs aux mains du président Kais Saied. Le Maroc renforce les contrôles à ses frontières en raison de la hausse des cas de contamination au Covid-19 en Europe. Nous y reviendrons. L'un des fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Saif al-Islam, a déposé sa candidature à la présidentielle, élection prévue fin décembre. De puissants séismes consécutifs en Iran, c'est arrivé dans le sud du pays. L'hommage du président du Conseil français du culte musulman au lendemain du 6e anniversaire des attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, nous écouterons Mohamed Moussaoui. À l'approche de la présidentielle en France, une soixantaine d'associations font entendre leur voix avec le pacte du pouvoir de vivre. L'idée est de peser ensemble dans le débat politique que nous trouvons délétère. Propos signé Daniel Goldberg, l'ancien député socialiste aujourd'hui président en Île-de-France de l'Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, sera l'un de nos invités. L'équipe nationale féminine de basketball du Liban a battu samedi soir la Jordanie, une victoire 80 à 40 en finale de la division B de la Coupe d'Asie 2021. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Nadia Troubi-Safsaf pour Frères de l'ombre, roman publié aux éditions Zellige, un livre qui évoque les tirailleurs sénégalais, extrait dans votre journal. Des heurts ont eu lieu aujourd'hui entre des policiers et des manifestants à Tunis. Cela s'est passé près du Parlement. Plusieurs milliers de personnes s'étaient réunies pour protester contre la concentration des pouvoirs aux mains du président tunisien. Kais Saied s'est arrogé la quasi-totalité des pouvoirs constitutionnels en juillet en suspendant le Parlement et en limogeant le gouvernement. Le chef de l'État qui a justifié ses décisions par la nécessité de mettre fin à la paralysie de l'action gouvernementale. Il a depuis formé un nouveau gouvernement dirigé par Najla Boudène Romdan et promis un dialogue national sur le système politique. Cela faisait 6 ans ce samedi, les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Des attaques terroristes revendiquées par l'organisation État islamique. Le bilan, 131 morts, 350 blessés, le plus lourd jamais enregistré en France à la suite d'un attentat. Tous les musulmans doivent œuvrer inlassablement pour repousser cette idéologie mortifère qui salit notre religion, nous dit Mohamed Moussaoui, entretien avec le président du Conseil français du culte musulman.
Je sais que la plaie ne se refermera jamais pour des vies qui ont été arrachées, puis des blessés, des traumatismes. Nous avons tous vécu ce 13 novembre comme un moment très douloureux, tragique pour notre pays. Et en tant que président du Conseil français du culte musulman, je suis d'autant plus blessé, horrifié par ce qui s'est passé, parce que ceux qui l'ont fait ont prétendu le faire au nom de notre religion. Ces attentats terroristes commis par des personnes se réclamant de l'islam créent chez les musulmans un sentiment de révolte et créent également au sein de notre société une défiance à l'égard des musulmans de France. Pourtant, tous horrifiés, il y avait des victimes aussi de confession, de toute confession, de Bataclan. Il y avait aussi des victimes de terrorisme se réclamant de l'islam, de confessions musulmanes, dont à Nice, à Charlie, n'oublions pas le policier Ahmad Merabet, et son âme dont la vie a été arrachée, et Mahdi Ibn Ziyaten à Toulouse. Toutes ces personnes font que les musulmans aujourd'hui, il faut qu'ils doublent d'efforts pour combattre ce terrorisme.
Et justement, le travail qui a été mené après les attentats du 13 novembre 2015 par le Conseil français du culte musulman, ce travail se poursuit aujourd'hui. Comment cela se traduit-il?
Tous les imams de France sont conscients que c'est un travail de longue haleine, qu'il faut sans cesse rappeler les principes fondamentaux de notre religion, dont la sacralité de la vie, dont le respect de la dignité, dont le respect de la pluralité religieuse. Ces principes qui font partie des 5 nécessités doctrinales de la religion musulmane doivent être rappelés sans cesse. Je pense que les imams le font d'une manière approfondie, régulière. Nous espérons recueillir les fruits de toute cette mobilisation générale des imams et des aumôniers musulmans. Mais au-delà du rôle des imams et des aumôniers, je pense que tous les responsables musulmans, et au-delà des responsables musulmans, tous les musulmans de France doivent œuvrer inlassablement pour repousser cette idéologie mortifère qui empoisonne la vie de notre pays, qui dévoie notre religion, qui salit notre religion. À chaque fois qu'un attentat est commis, on a l'impression effectivement que tout ce qui a été fait n'a pas servi, mais en réalité, il faut jamais, jamais avoir cette attitude. Il faut être convaincu que c'est un travail de longue haleine, utile, nécessaire et indispensable. Et il faudrait le mener avec toutes nos forces.
Ces commémorations, 6 ans après ces attentats du 13 novembre 2015, se sont déroulées alors que se tient le procès des accusés de ces attentats. Qu'en attendez-vous aujourd'hui ?
Le procès lui-même a montré l'état d'esprit de ces terroristes. Il a ouvert devant les familles des victimes des images horribles, une souffrance, mais il est nécessaire que ce soit le procès ou la commémoration, c'est important d'agir contre l'oubli. Il ne faudrait pas que ces actes passent impunis. En même temps, il ne faudrait pas oublier. Parce que l'oubli est une deuxième sanction, un deuxième acte contre la mémoire de ces victimes qui ont été tuées, assassinées lâchement par ces terroristes. C'est donc les commémorations, elles sont utiles pour cela, pour rappeler aux futures générations que des crimes horribles ont été commis au nom d'une foi de millions de citoyens français et ces citoyens de confession musulmane seront toujours là pour dénoncer toute instrumentalisation de la religion musulmane à des fins de violence et de terrorisme.
Le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui. Le Maroc renforce les contrôles à ses frontières à cause de la hausse des contaminations au Covid-19 en Europe. Outre la présentation du pass sanitaire obligatoire et de tests PCR négatifs, un double contrôle par caméra thermique et thermomètre ainsi que des tests antigéniques seront effectués à l'arrivée au Maroc. Ces mesures concernent toutes les personnes en provenance des pays dits de la liste B comme la France et la plupart des pays de l'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni. L'un des fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Saif al-Islam, a déposé sa candidature à la présidentielle ce dimanche. Une présidentielle prévue le 24 décembre, cela alors qu'il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Ces élections présidentielles puis législatives sont censées tourner la page d'une décennie de chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, tué en 2011 lors d'une révolte populaire. 7 migrants ont été retrouvés morts hier à bord d'une embarcation en perdition au large de l'île espagnole de Grande Canarie. Une 8e personne est morte à terre. C'est arrivé hier dans l'est de la Syrie. Au moins 13 combattants pro-régime ont été tués dans une embuscade tendue par le groupe État islamique. Une information de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au moins 7 soldats tués, bilan de 2 attaques distinctes menées par des djihadistes affiliés à Daesh dans le nord-est du Nigeria. Le nord-est du pays où les soldats luttent pour mettre fin à une insurrection de 12 ans qui a tué plus de 40 000 civils. De puissants séismes consécutifs en Iran. C'est arrivé dans le sud du pays. Il y a au moins un mort. Ces tremblements de terre ont provoqué des scènes de panique. Le premier séisme de magnitude 6,4 et le second de 6,3 se sont produits à 15h37 à 90 secondes d'intervalle. 64 associations en France veulent peser sur la présidentielle et lancent le pacte du pouvoir de vivre. Parmi ces organisations, la CFDT, la Fondation Abbé Pierre, la CIMAD ou encore Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot, l'Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés, Sanitaires et Sociaux. Ces organisations présentent 90 propositions qui portent notamment sur les sujets économiques, sociaux, environnementaux ou de démocratie. Entretien avec l'ancien député socialiste, aujourd'hui président en Île-de-France de l'Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés, sanitaires et sociaux, Daniel Goldberg.
Quantité de sujets, finalement, recoupent le champ social, le champ environnemental et le champ démocratique, je dirais. Cette semaine, il y avait la journée sur la précarité énergétique. Quand on parle de précarité énergétique, évidemment, il y a une question sociale pour des gens qui n'ont pas les moyens de se chauffer. Il y a évidemment une question environnementale parce qu'il faut dépenser beaucoup plus d'énergie dans les passoires thermiques quand les logements sont mal isolés. Donc, c'est une question environnementale. Et puis, il y a une question démocratique aussi parce que, finalement, comment est-on au courant des dispositifs qui peuvent permettre des aides? Eh bien, c'est souvent celles et ceux qui sont le plus en difficulté qui n'ont pas les informations. Donc, vous voyez, sur un sujet comme celui-là, eh bien, les trois champs, environnement, social et citoyen, se recoupent. Et de 19 organisations en mars 2019, eh bien, nous sommes aujourd'hui plus de 60, comme vous l'avez dit, de manière très large. Il y a aussi des associations qui combattent sur le sujet de la défense des droits des migrants. Il y a une large partie des acteurs du logement social. La Fondation Abbé Pierre elle-même était à l'origine avec l'UNIOPS aussi de ce rassemblement. Et l'idée, c'est vraiment de peser ensemble aujourd'hui dans le débat et dans un débat politique que nous trouvons délétère en tant qu'acteurs de terrain.
Vous estimez que cette campagne prend une mauvaise tournure? Les questions identitaires, les questions liées à la sécurité qui sont aujourd'hui très largement mises en lumière, aux dépens, selon vous, des questions qui concerneraient peut-être plus directement les Français, comme les sujets liés au pouvoir d'achat et à la solidarité, par exemple?
Évidemment. Alors après, la sécurité, c'est un vrai sujet, hein. Moi, je suis pour qu'on débatte d'une meilleure sécurité, en particulier... Vous savez, je suis issu de Seine-Saint-Denis, en particulier dans les quartiers populaires, parce que finalement, c'est aussi les habitants des quartiers populaires qui sont les premières victimes de l'insécurité. Mais parler de sécurité, ce n'est pas parler comme le fait, par exemple, M. Zemmour ou d'autres, avec des recettes faciles, avec une exacerbation des conflits, avec dresser les Français les uns contre les autres, et en plus refaire l'histoire en faisant passer le régime de Vichy comme un régime démocratique. Donc évidemment que parler de sécurité, pour nous, ce n'est pas cela. Et en plus de ce point sur la sécurité, il faut évidemment parler de la fin du mois, de ce qu'on appelle la fin du monde, et puis j'ajoute... Moi, j'aime bien parler de fin démocratique, mais je l'écris FIM, c'est-à-dire l'envie de participer des citoyens. On est dans une situation au lendemain de l'épisode le plus dur de la pandémie. On verra ce que nous réserve l'évolution du Covid dans les semaines qui viennent. Mais après ce que nous avons vécu, on a beaucoup parlé du monde d'après. Je n'ai pas l'impression de voir beaucoup de différences sur les objectifs principaux qui sont mis sur la table, y compris ces derniers jours. Donc nous pensons qu'il faut aller vers une transition écologique qui recrée de l'emploi dans nos territoires. On veut une société qui prenne soin de tous et de toutes, et en particulier des plus fragiles, parce que non seulement il s'agit de solidarité, mais quand quelqu'un a été malheureusement touché par le Covid, eh bien, vous savez qu'il y a des personnes qui ont le Covid long, donc même des personnes qui étaient en bonne santé avant cet épisode, eh bien, on voit que cette fragilité nouvelle de nos sociétés, elle demande à être corrigée au long cours. Donc, on a besoin d'une société qui prend soin. Transition écologique, j'en ai parlé. Et puis, toutes ces transformations qui sont nécessaires pour réajuster un certain nombre de priorités par rapport aux urgences que nous posons, elles n'avanceront pas si on ne s'appuie pas sur le pouvoir d'agir des citoyens. Et c'est finalement ces trois volontés que nous voulons porter au même niveau et que nos plus de 60 organisations veulent porter ensemble aujourd'hui, demain. Et je le dis tout de suite, on ne s'arrêtera pas en 2022 avec les élections nationales, mais déjà dans le débat des élections nationales qui arrivent.
Vous parlez des personnes les plus fragiles. La France compte 12 millions de personnes en situation de handicap. Cette question devrait être au cœur de la campagne présidentielle, ou en tout cas l'un des sujets centraux?
Les personnes qui sont en situation de handicap, évidemment. D'abord parce qu'il y a du handicap malheureusement pérenne, parfois dès la naissance, mais il y a aussi des gens qui sont en situation de handicap après un accident. Quelqu'un qui a un AVC est en situation de handicap, par exemple, pendant plusieurs mois, le temps de sa réadaptation. Évidemment, derrière cette question du handicap qui est déjà très importante, il y a toutes les personnes vulnérables. Si on veut penser une société du soin au sens large, eh bien, la question du handicap doit être pensée en même temps que la situation du vieillissement, par exemple. Doit être pensée en même temps, bien sûr, que la question de l'accès aux soins et de l'accès à quantité de dispositifs sociaux et médico-sociaux qui vont avec. Quand on pense fragilité dans nos sociétés, il y a tous les mineurs qui sont à protéger, donc tout ce qui est la protection de l'enfance. On sait qu'aujourd'hui, une large part des gens qui sont à la rue sont des personnes qui, malheureusement, ont souffert dans leur enfance et pour lesquelles il n'y a pas eu suffisamment de moyens pour les mettre, pour leur permettre de se rétablir alors qu'ils ont eu une enfance difficile. Et derrière tout ça, il y a notre interdépendance. Hein. Qu'est-ce que l'on a eu sous les yeux pour celles et ceux qui ne le voyaient pas dans notre société au moment du premier et du deuxième et confinement notamment, eh bien c'est notre complète interdépendance. C'est-à-dire que même quelqu'un qui était richissime dans notre pays, eh bien il avait besoin qu'on ait des gens dans les hôpitaux, que l'on ait des gens aussi pour s'occuper de nos trottoirs et ramasser les ordures ménagères, qu'on ait des caissières qui aillent dans les supermarchés, qu'on ait des gens qui aillent conduire les autobus pour amener les enfants à l'école quand l'école était ouverte, etc., etc. Et que cette interdépendance, elle heurte de front une vision de la société où chacun pensait pouvoir s'en sortir seul. Et c'est contre cette vision-là aussi que nous nous mobilisons au niveau du pacte du pouvoir de vivre, parce que si la grande majorité de nos concitoyens n'ont pas le sentiment justement d'avoir le pouvoir de vivre et d'avoir le pouvoir d'agir sur leur propre déroulé de vie, eh bien c'est là où on risque d'aller vers des solutions qui seront tout à fait contraires à ce qu'est la République. Et donc, nous prenons nos responsabilités.
L'ancien député socialiste, aujourd'hui président en Île-de-France de l'Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, Daniel Goldberg. L'équipe nationale féminine de basketball du Liban a battu samedi soir la Jordanie, une victoire 80-40 en finale de la division B de la Coupe d'Asie 2021. Les joueuses libanaises remportent ainsi leur place pour la Coupe 2022 en division A. La Jordanie a, elle, gagné sa place en battant le Kazakhstan 61-56. L'Indonésie est à la troisième position de la division B. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Nadia Atroubi-Safsaf pour Frères de l'ombre, un roman publié aux éditions Élige, un livre qui évoque les tirailleurs sénégalais extraits.
Ça fait très longtemps que je m'intéresse effectivement à l'épopée des tirailleurs sénégalais et des soldats coloniaux de manière plus générale. Et je pense que ça date même de mon enfance, quand j'ai découvert que mon grand-oncle, donc le frère de ma mère, avait été tirailleur. Et donc ça a aiguisé ma curiosité et malheureusement il est décédé sans que j'ai pu poser toutes les questions. Il est décédé quand j'étais ado. Je me rappelle juste qu'il m'avait parlé de l'Indochine par exemple et qu'il m'avait dit qu'il était bien triste qu'aujourd'hui son fils qui voulait faire des études en France ne puisse pas y aller alors que lui il avait quand même risqué sa vie pour la France. C'était resté dans un coin de ma tête et quand j'ai fait mon livre « Ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants », j'ai effleuré un peu cette question des résistants venus d'ailleurs, des gens qui étaient venus d'ailleurs pour défendre la mère patrie. Et donc, j'ai eu envie de donner voix à ces héros qu'on a, à mon sens, oubliés. Mais je voulais pas que ça soit des soldats coloniaux franco-maghrébins, parce que je voulais pas être enfermée dans une identité, puisque dans mon précédent roman, j'avais valorisé des résistants algériens. Donc là, je m'étais dit que de toute façon, des soldats qui venaient de l'empire colonial, ce serait intéressant. Donc les tirailleurs sénégalais.
Nadia Atroubi-Safsaf, elle publie Frères de l'ombre, un roman publié aux éditions Élige. Elle est l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h, une émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.